Bienvenue à toutes et tous et je suis très heureuse de vous avoir là. Je suis Sandra Loger, je suis pilote de ce projet Eupraxis dont on va parler aujourd'hui. Et je vais d'abord donner la parole aux diverses personnes grâce à qui nous sommes là. Et je vais commencer avec Christine Neuledic, donc présidente de Paris 1.
Merci beaucoup Sandra. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là ce matin. Je tiens à remercier toutes les personnalités qui sont présentes aujourd'hui, de la mairie de Paris, du ministère, du CNRS bien entendu, tous les collègues présents pour ce lancement d'un très beau programme. Vous dire aussi que ce projet, grand projet Eupraxis, surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience, est un programme d'une actualité dont le besoin, la nécessité vitale est tout à fait actuelle, et d'être très heureuse aussi de l'ouvrir dans ce cadre très particulier de césure, dans les anciens bâtiments de notre université amie et partenaire Sorbonne Nouvelle, ces bâtiments que nous occupons encore en partie de façon transitoire pour nos cours, mais surtout pour ce beau projet Césure qui est un projet d'ouverture, grâce aussi à la mairie de Paris, d'ouverture vers l'extérieur, vers les associations, avec les étudiants bien entendu et tous nos collègues. Et c'est, je crois aussi, très marquant pour un projet tel que Praxis de se dérouler et d'avoir cette ouverture dans ce lieu, parce que la démocratie, le bien-être, la résilience, c'est un objet, ce sont des objets qui sont partagés et qui ne peuvent vivre que si on est tous ensemble. Alors le programme est porté par notre partenaire principal, le CNRS, partenaire recherche incontournable, primordial de notre université, et plus précisément par le secteur SHS et STIC du CNRS. Et je tiens à saluer très sincèrement et chaleureusement les porteurs du programme, Solveig, Serre et David Cœur-Joly, et bien entendu les représentants du CNRS présents. Vous le savez, notre université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est très impliquée dans ICAR. Deux projets ciblés dans le cadre de ce PEPR sont portés par des collègues de Paris 1. Le projet aujourd'hui Eupraxis, mais aussi le projet STIC, qui est mode infini dans le métaverse, qui est porté sur des thématiques d'économie, société, organisation et régulation par Joël Farchi, qui est professeur à Paris 1, mais projet qui est hébergé par Panthéon Assas. Eupraxis est un projet, et je la remercie vivement de toute son activité au service de notre université, une activité démultipliée. On a parfois du mal à suivre, je lui disais en plaisantant, je crois que j'arrive pas à venir à tous les lancements de projets que tu organises, mais j'en suis toujours très, très heureuse. Donc porté par Sandra Loger, un projet surmonter les crises, bien-être, démocratie, qui est aussi hébergé dans un laboratoire de notre université, l'UMR SJPS, Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Je le souligne parce que c'est une UMR qui est assez jeune, en fait, dans sa pluridisciplinarité, mêlant sciences juridiques et philosophiques, qui est une originalité. Je ne pense pas qu'on ait une autre UMR en France qui lie ces deux disciplines, et ça montre aussi, ça veut dire quelque chose aussi de notre université. Alors, bien entendu, dans la présence de Paris 1 dans ICAR, dénote aussi notre spécialisation dans les études de communication et de médias. Nous développons à Paris un très grand programme en matière d'intelligence artificielle, à la fois sur un volet recherche et un volet formation, notamment sur les métiers d'avenir, pour voir comment l'intelligence artificielle va transformer nos formations, parce que ça transforme les métiers actuels et aussi crée de nouveaux métiers. Et les universités doivent être présentes, bien entendu sur la recherche, puisque l'IA bouleverse à la fois les méthodes de recherche et est aussi un objet de recherche, particulièrement pour les SHS. Nous essayons et nous soutenons, je crois, assez fortement des enseignements, des recherches dans des domaines très variés, la création artistique, les arts audiovisuels et leur histoire, les musées, les patrimoines, le patrimoine, le design, l'architecture, le livre, la presse, au fond tous les secteurs des médias, et bien entendu le secteur de la communication et de la mode. Je tiens juste à souligner, avec la mode, nous avons un partenariat privilégié avec l'Institut français de la mode, et nous avons ouvert un parcours doctoral spécifique qui a pour objet la mode et les études de mode. Donc c'est un point assez original également. Et bien entendu, je ne peux pas ne pas en dire un mot puisque c'est un sujet d'actualité, nous sommes partenaires avec le CNRS et de nombreuses universités françaises et internationales dans l'appel à projet l'ami SHS Demos que nous devons déposer, et je crois que nous sommes assez nombreux à participer aussi à d'autres projets avant le 15 octobre, ce qui est une gageure, mais on va essayer de le faire. Et ce projet, cet appel à projet auquel nous essayons de répondre, et aussi tourner vers la démocratie. Et je crois que cette thématique qui a été proposée dans le cadre de l'AMI SHS et que nous avons souhaité porter est une thématique, je l'ai dit, vraiment d'actualité. Mais c'est la démocratie, elle n'est pas que des politiques. Elle commence aussi par la démocratie au quotidien, dans le secteur de la culture. Tout ce qui peut être fait pour transmettre les valeurs démocratiques, et je pense que les industries créatives et culturelles ont vraiment toute leur place dans cette transmission. C'est aussi mise en valeur, en visibilité de ce qu'est la démocratie au quotidien pour l'ensemble de la société, pour tous nos concitoyens, quels qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient français ou étrangers. La question de la démocratie se vit sur un territoire et se vit dans notre pays au quotidien. Et c'est vraiment le thème de ce projet Eupraxie, qui complète aussi en fait notre projet qui s'appelle Démosérie, qui est porté depuis 5 ans par Sandra Laugier, qui montre aussi, sous un autre aspect, comment les séries populaires télévisuelles, essentiellement, permettent la défense de la démocratie et comment elles permettent la transmission de valeurs morales et politiques. Et vraiment, je tiens à le dire, et je ne vais pas être plus longue, parce que vous allez avoir une très belle journée à venir, mais je tenais vraiment à dire que les activités et les industries culturelles et créatives ont un vrai rôle de diffusion à mener. Mais je pense que les jeunes générations le sont extrêmement sensibles, que c'est un vecteur formidable de communication. Et je crois essentiel que les universités, les chercheurs, les enseignants-chercheurs soient extrêmement impliqués aux côtés des partenaires qui viennent des entreprises privées, du public, bien entendu, puisqu'il y a aussi l'audiovisuel public, par exemple, mais aussi avec les entreprises, les organisations, les associations. Il y a un travail très important à faire dans le cadre des liens sciences et société. C'est pas un mot galvaudé. On en parle beaucoup à l'heure actuelle. On peut penser que c'est un phénomène de mode. Pas du tout. On le fait depuis longtemps sans le dire et sans le réaliser, en fait. On le voit dans tous nos collègues interviennent, travaille avec beaucoup de partenaires publics, privés, très divers. Mais je crois qu'il y a vraiment un fort investissement à faire pour les universités. En tout cas, c'est ce que fait notre université. Je vais m'arrêter là, peut-être, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. J'ai vu que le programme était superbe, beaucoup d'échanges, de réflexions. Je pourrais malheureusement pas, et je m'en excuse par avance, y participer et vous écouter. Mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que ce sera extrêmement riche et stimulant pour l'avenir et pour la réalisation de ce projet. Merci infiniment à tous de vous y investir. Merci beaucoup.
Merci. Donc, nous allons entendre... Fabrice Cazadebé.
Merci Sandra, merci Madame la Présidente. Bonjour à tous, Fabrice Cazadebé, je suis conseiller culture au secrétariat général pour l'investissement, qui est le service de Matignon qui s'occupe de tout le plan France 2030, qui finance donc ce programme de recherche. Et je suis en charge de la partie culture. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin à Césure, et je dois dire qu'il y a un certain plaisir à voir l'effervescence depuis le 19 juin dernier où nous étions à Tourcoing, à la Pleine Image, pour le lancement de tout ce programme de recherche. Je salue Solveig au fond de la salle, et de voir ces déclinaisons depuis la rentrée avec Dédale il y a 15 jours, Luc Robben est là, avec Thémis il y a une semaine, Volnifage et le responsable de la scène de recherche, Ulysse est avec nous ce matin. Et Eupraxie, donc aujourd'hui, c'est réjouissant de voir tout le programme prendre vie peu à peu sous nos yeux. Quelques mots sur la culture dans France 2030, sur l'enveloppe globale de ce programme qui est doté de 54 milliards d'euros et qui cherche à préparer notre pays aux transformations qu'il aura à connaître dans les prochaines années. Il y a 1 milliard d'euros qui est consacré à la transformation de la culture et des industries culturelles. C'est une démarche qui est ancienne, qui est issue de la démarche du grand emprunt, des investissements d'avenir, qui avait été précédée par un rapport co-écrit par Michel Rocard et Alain Juppé, donc une vision transpartisane des choses, qui nous invitait dans leurs conclusions à nous arracher à la tyrannie du court terme, qui est un message, je crois, que les institutions publiques et administratives doivent écouter et s'efforcent d'écouter au quotidien. C'est un programme qui est piloté à Matignon par le Premier ministre et ses équipes, mais qui associe tout le gouvernement. Évidemment, sur le volet culture, le ministère de la Culture est très engagé. C'est un peu le chef de file de cette démarche. On travaille évidemment sur les enjeux de recherche et de formation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Bercy, avec les affaires étrangères, avec la transition écologique. Donc il y a une idée de PAC gouvernementale au soutien des industries culturelles et créatives, une idée un peu d'équipe de France qu'on essaie de faire vivre dans cette démarche. On assume une vision très large de la culture en rassemblant aussi bien les institutions muséales, patrimoniales ou du spectacle vivant que les industries culturelles au sens strict, même si on les met toutes sous ce vocable, industrie culturelle et créative, qui peut être interrogée évidemment par les chercheurs que vous êtes. On mélange aussi bien les pratiques quasi artisanales avec les métiers d'art, la création de mode, que les grandes loges du cinéma, de l'animation, des jeux vidéo, des festivals ou de la musique enregistrée. On intègre aussi la création qui transforme physiquement le monde avec le design, avec l'architecture et les médias qui relient et nous disent l'époque que nous vivons. C'est sans doute la première fois que l'État affirme et assume une focale aussi grande dans ses interventions dans le champ culturel. Et on en est fiers d'une certaine manière. La culture, évidemment, c'est des enjeux qui sont d'abord personnels, intimes, qui nous appartiennent à chacun. Et c'est ce qui justifie qu'on les mobilise. Ça a aussi des enjeux économiques très grands. Je rappelle quelques chiffres, mais si on prend l'ensemble des industries culturelles et créatives, c'est 2,3% du produit intérieur brut, c'est-à-dire deux fois l'industrie automobile et autant que l'industrie agroalimentaire. Donc c'est au-delà du caractère intime et puissant de la culture. Pour l'économie, c'est quelque chose d'important avec de l'emploi et de la croissance à la clé. Et puis aussi un enjeu sociétal très grand, des enjeux sociaux, des enjeux de cohésion sociale, des enjeux de cohésion territoriale et évidemment aussi des enjeux de rayonnement international. D'une certaine manière, c'est quasiment le seul secteur de l'économie où on peut dire qu'on est numéro un mondial ou en tout cas où on est perçu à l'étranger comme étant parmi les leaders mondiaux du secteur. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc c'est assez normal que l'État accompagne ces secteurs d'excellence. Et puis, c'est peut-être aussi un des seuls secteurs de la société qui a le pouvoir, selon la direction que l'on veut bien emprunter, ou de créer du lien, ou de créer de la distance, à chacun, évidemment, d'entreprendre la bonne voie. Le programme de recherche s'inscrit donc dans ce programme Culture de France 2030 et plus particulièrement dans ce qu'on appelle la stratégie nationale d'accélération des industries culturelles et créatives qui cherche en fait à accompagner à la fois la transition écologique, la transition numérique, une plus grande inscription sur les territoires. On connaît la difficulté, enfin le lien au centralisme de ces problématiques culturelles. C'est un enjeu important, la présence sur l'ensemble du territoire français. Aussi la projection à l'export et puis une structuration plus grande d'un secteur qui est très atomisé. Sur l'ensemble du secteur, on compte à peu près 150 000 entreprises ou institutions avec 640 000 emplois directs, 1,3 million d'emplois indirects. Si vous faites le ratio entre les deux premiers chiffres, vous avez tout de suite une cartographie, un peu plus de 4 personnes par structure. C'est très atomisé et ça a évidemment des incidences très grandes. Au travers de tous ces 5 axes, ce qu'on cherche à faire, c'est accompagner l'innovation au sens large, pas seulement une innovation technologique d'ailleurs, ça peut être une innovation de gouvernance, une innovation d'usage, une innovation de modèle économique. Pas l'innovation pour l'innovation ou la technologie pour la technologie, mais c'est toujours au service et finalement au service des objectifs de la politique culturelle depuis le décret du 24 juillet 59, ou on peut même dire depuis Jonzé et le Front Populaire sur la démocratisation culturelle, l'inclusion, l'élargissement des publics. C'est à ça que doivent servir ces innovations. Le programme de recherche qui a été lancé donc à Tourcoing en juin dernier s'inscrit pleinement dans cette stratégie. L'idée, c'est pas de financer de la recherche classique, on va dire, comme d'autres guichets de l'État peuvent la financer, mais bien une recherche en lien avec les industries culturelles et créatives, dans le dialogue, dans l'échange, ce que Solveig a baptisé la SAPIC, avec le sens de la dérision, de l'autodérision qu'on lui connaît, la science avec et pour les ICC. Dans notre approche de la stratégie d'accélération, on cherche à décloisonner les ICC et on cherche aussi d'une certaine manière à décloisonner la recherche
Il s'agit un peu de sortir de l'entre-soi pour tout le monde, les acteurs culturels qui ont parfois cette tendance, et peut-être aussi les acteurs de la recherche qui peuvent aussi parfois être dans leur tour d'ivoire. Donc un des objectifs du programme, c'est que chacun sorte de sa tour d'ivoire en allant à la rencontre des autres. Je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à la mise en œuvre justement de ce programme, Sol Vexer et David Cœur-Joli qui en sont les directeurs, pour leur efficacité, leur réactivité et leur écoute. Mes collègues du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui ont vu passer beaucoup de PEPR, me disent que nous avons beaucoup de chance de les avoir, et je confirme. Merci Solveig, merci David. Merci à Sandra de coordonner les travaux de ce programme ciblé, de ce projet ciblé de recherche. Je pense qu'on est nombreux dans la salle à avoir lu votre tribune cet été dans Le Monde, après les cérémonies des Jeux Olympiques. Vous avez si bien mis en mots ce que nous pouvions confusément ressentir les uns et les autres. Et puis merci aux équipes du MESR et du MC, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et le ministère de la Culture, qui se sont évidemment beaucoup investis dans le programme également. Dans le programme, il y avait 3 objectifs, mieux produire, mieux comprendre, mieux vivre. Et la culture était inscrite dans le mieux vivre. Et ça semble un peu évident. Une précédente ministre de la Culture disait que la culture, c'est ce qui donnait du goût et du sens à la vie. La ministre actuelle évoque le pouvoir d'émancipation très fort que la culture peut revêtir. D'une certaine manière, c'est un peu ce qui nous dit aussi, je crois, la culture, que nous sommes vivants. Qu'on peut partager des émotions, qu'on peut se dire nous l'avons vécu ensemble, nous étions vivants ensemble, nous étions vivants tout court d'une certaine manière, de la survie à la vie pleine, pleine d'essence et pleine des vibrations. Cette idée du ciment des émotions partagées, vous y revenez souvent Sandra, des références partagées aussi, une création de souvenirs communs, une mémoire commune au sein des générations, au-delà des générations, une forme de transmission, un autre relais de la flamme d'une certaine manière, une flamme des émotions, avec cette idée de créer du commun qu'on retrouve dans ces éléments, qui était un des objectifs aussi des concepteurs de ces cérémonies d'ouverture des JO. Je pense qu'il y a aussi un impact sur la santé. Alors je sais que c'est pas trop forcément au cœur des SHS ou de la démarche, mais à mon sens, il faudrait dégager des recherches très fortes sur les déclenchements hormonaux de dopamine et autres hormones qui sont liées à la grâce, à l'énergie, à des moments que seule la culture peut créer. Avec cette idée du partage au-delà de l'exclusion. Il y a 2 tribunes qui m'ont marqué cet été, celle que vous aviez faite juste après les JO, et puis Thomas Joly qui s'est exprimé aussi dans une interview cette fois-ci il y a quelques semaines, qui disait en gros qu'est-ce que j'ai cherché à faire dans cette cérémonie. Un peu dire qui nous sommes, donc la culture comme lien, comme repère partagé, créer du commun, donner de la dignité à chacun, faire que chacun se sente représenté, c'est-à-dire se sente faire partie d'un tout et donc exister socialement, réunir en fait. Et finalement aussi faire de la culture une fête, un festin des arts. Il y avait du roquefort dans une scène qui a défrayé la chronique. Et puis il évoque aussi les formes des arts, du partage, en évoquant le fait que dans l'Antiquité grecque, on pouvait être 20 000 à suivre un spectacle vivant dans les salles, ce qui est 10 fois plus qu'aujourd'hui, dans les plus grandes salles françaises, et en nous interrogeant sur les formes, les limites que nous donnons à nos partages culturels aujourd'hui. Et ce travail de Thomas Joly, il a été poursuivi, je trouve, assez brillamment sur le plan musical par Victor Lemann, avec une volonté vraiment de partager les références dans une playlist qui unissait beaucoup, de Debussy à Joe Dassin, de Ravel à Dalida et de Rameau à Gojira, avec cette idée que chacun pouvait se retrouver dedans. Et à la fin, quand Céline Dion a affirmé du haut du premier étage de la Tour Eiffel, Dieu réunit ceux qui s'aiment, avec cette voix et cette émotion, tout Paris fait silence devant son écran, des milliards de téléspectateurs aussi ont fait silence. Et à ce moment-là, peut-être, il y avait le beau, il y avait la fierté, donc la question de soigner la société qui est au cœur de vos travaux. Donc la culture, le lien à la confiance, à la dignité, à la fierté, parfois des temps de déni qui aident à se retrouver, l'union, l'élan des émotions partagées et l'unisson. C'est un peu tout cela qui se retrouve dans Eupraxie. Solveig nous fait toujours des références antique et mythologique, mais c'est à la fois le bien-être, la bonne réputation, la bonne conduite. On y retrouve beaucoup de ça. Alors j'ai été, comme d'habitude, beaucoup trop long. J'aime bien, à la fin de mes propos, mettre pas mal la pression sur les directeurs de programme. Donc, quand j'étais à Saclay la semaine dernière, j'ai dit à Volny, à Ulysse, à quel point les enjeux de démocratisation culturelle me tenaient à cœur. Et pour vous, Sandra, j'ai quelque chose de très simple. Dostoïevski disait « La beauté sauvera le monde ». Et finalement, la mission très simple de Praxis, c'est de nous dire comment. Donc, bon travail.
Merci beaucoup. Donc la parole est à Fabrice. J'ai aussi fait une tribune sur Taylor Swift la semaine dernière. Donc Alexandre d'abord.
Merci, bonjour, je suis Alexandre Geffen, je suis directeur adjoint scientifique de CNRS Sciences Humaines et Sociales, que vous connaissiez peut-être sur le nom INSHS. C'est l'un des 10 instituts donc du CNRS, donc qui est l'opérateur d'un ensemble de PEPR, dont ICAR. CNRS Sciences Humaines et Sociales, c'est près de 300 unités de recherche, 3000 personnes, et à travers nos partenaires, les universités, près de 30 000 chercheurs avec lesquels nous travaillons. Si nous ne sommes pas officiellement un opérateur national, on a un rôle dans tout le territoire et dans toute une gamme de domaines, dont en particulier les arts, qui sont ici présents dans ce programme. Car le CNRS se définit comme faisant de la recherche fondamentale au bénéfice de la société, et c'est pour ça que l'articulation avec des PEPR, dont l'objectif est celui de l'accélération en partenariat avec des acteurs du monde économique, avec une vision des arts qui inclut la question des industries culturelles, nous est tout à fait importante, et nous sommes absolument enthousiastes, heureux. Nous mettons nos moyens, nos chercheurs, puisque Solveig Serre est directrice de recherche et dirige une unité de recherche CNRS, nos moyens au service de ces PEPR, puisque nous avons plusieurs, notamment un PEPR sur l'écologie au CNRS. On est d'autant plus heureux de faire cela que le projet Eupraxis s'inscrit vraiment dans toute une série de thématiques qu'on a voulu défendre. On a beaucoup travaillé autour de la crise du Covid et son après. On a beaucoup travaillé autour de la manière dont on pouvait utiliser les sciences humaines et sociales pour faire monde commun, pour participer à la démocratisation. Ça fait partie de nos objectifs scientifiques. Si vous cherchez à les identifier, vous verrez un petit peu notre programme scientifique sur le site de CNRS Sciences Humaines et Sociales. Et nous avons par exemple publié l'année dernière un bouquin qui s'appelle « Un monde commun » sur les SHS au service de cette construction avec la société d'un idéal démocratique, la construction et la défense de cet idéal démocratique. Alors, je vous disais, ces questions de résilience sont également extrêmement présentes dans nos différents champs thématiques. On les a abordées à travers des angles économiques, à travers des angles sociétaux, mais aussi à travers des angles philosophiques. Et je crois que, de ce point de vue-là, l'interdisciplinarité de Praxis est tout à fait affichée, portée. Elle est portée par Sandra Logier, donc, qui vient d'une équipe, l'IAJPS, qui est une équipe interdisciplinaire, donc de juristes, de philosophes en particulier, dont Parien est la co-tutelle. Je crois que vraiment, dans tout ce dispositif du PEPR, l'ensemble de nos moyens, de nos modalités d'action, mais aussi de notre philosophie de la recherche se retrouve. C'est pour ça qu'on est absolument enthousiaste. Je voudrais rajouter une petite note un peu plus personnelle. Il se trouve que je travaille depuis des années avec Sandra Logier. Nous avons un séminaire commun dans lequel les questions de lien, les questions de démocratie sont absolument centrales. On travaille ensemble sur les cultures populaires. Et c'est pour ça qu'on n'a aucun souci à essayer de penser avec les industries culturelles. C'est quelque chose qui est absolument fondamental pour nous, de ne pas se contenter d'art élitiste, mais de s'intéresser à la manière dont l'art est à même de changer, de participer
participé du développement des individus ou de leur résistance face aux crises qu'ils rencontrent. Pour une note encore plus personnelle, moi, mon champ de recherche est la littérature. Et en littérature, je travaille depuis des années sur cette notion de résilience, cette notion de réparation, cette notion d'art et de littérature comme des formes d'action. Et c'est dire si je trouve et si je retrouve avec beaucoup de joie dans ce programme Eupraxie toute une série de thématiques que je voudrais défendre et que je défends comme chercheur depuis longtemps. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement au CNRS du champ de la philosophie, de l'art et de la littérature. C'est une trentaine d'unités de recherche. C'est environ 3000 chercheurs et enseignants-chercheurs. On va faire tout un travail pour les intégrer au mieux dans le réseau des actions ciblées et du PEPR au sens large. On leur en parle, on communique beaucoup. Lorsqu'on réunit les directeurs d'unité, on les sensibilise pour que des synergies se dégagent. Et je crois qu'elles sont en train de se dégager. C'est donc pour vous dire à quel point, aussi bien sur un plan institutionnel que sur un plan de vie scientifique, je suis tout à fait enthousiaste et que nous allons mettre vraiment nos moyens, nos équipes, nos modes de travail au service de ce très très bel outil très très nouveau. On n'en a pas l'expérience. Ces PEPR, ils sont arrivés très récemment dans les instruments dont nous disposons. Et je crois que nous allons essayer de travailler à construire de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de faire de la recherche au service de la société, pour reprendre donc ce slogan qui définit le CNRS. Merci.
Monsieur le conseiller culture au secrétariat général pour l'investissement, très cher Fabrice, madame la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chère Christine, monsieur le directeur adjoint scientifique au CNRS Sciences humaines et sociales, cher Alexandre, très chère Sandra, chers intervenants et chers collègues et amis qui êtes présents en nombre aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être à vos côtés ce matin dans ce lieu des savoirs inattendus, c'est le sous-titre de Césure, l'ancien campus Sancy, l'université Sorbonne Nouvelle, à l'occasion du lancement du projet de recherche Eupraxie, dont le sous-titre est « Surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience ». Projet qui a pour vocation d'enquêter sur la capacité des industries culturelles et créatives à être investies comme levier dans le développement des compétences des citoyens, dans le soin à la vie collective, dans la production de bien-être, et à montrer comment les industries culturelles et créatives relèvent de processus démocratiques pour la résilience des sociétés et donc de leur évolution démocratique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solveig Serre, je suis directrice de recherche au CNRS, historienne et musicologue, et je suis devant vous aujourd'hui en tant que co-directrice avec David Coeur-Joly, qui lui est directeur de recherche au CNRS côté sciences informatiques, donc directrice du programme Industrie culturelle et créative, dont le nom de code est PEPR-ICAR, dans lequel s'inscrit le projet Eupraxie, avec 5 autres compagnons de voyage que je rappelle ici, et que sont les projets Harmonie, qui aborde les enjeux de la création à l'heure des technologies immersives et de l'intelligence artificielle, Thémis, qu'on a donc lancé la semaine dernière, et qui a pour vocation de repenser la démocratisation culturelle, Dédale, qui a été lancé la semaine d'avant encore, consacré aux alternatives culturelles et créatives, Styx, qui s'interroge sur les aspects économiques et sociaux des métavers et qui sera lancé le 6 novembre prochain, et enfin Comet, qui a pour vocation d'encourager les avancées scientifiques et technologiques des univers métaversiques. Le lancement de Praxi représente l'aboutissement d'un long processus, à la fois scientifique et administratif, de presque 2 années. Une véritable aventure collective co-construite par de nombreux acteurs, qu'ils soient scientifiques, professionnels, administratifs et politiques, que je remercie au passage. Un merci particulièrement à Yacine Belliot et à Marion Brizard, respectivement chef de programme et gestionnaire administrative et financière d'ICAR, qui œuvrent depuis des semaines pour que cette journée ait lieu dans les meilleures conditions possibles. Au sein d'ICAR, Eupraxie est un projet un peu particulier, car sa vocation principale, alors ce matin j'avais écrit de penser, mais en même temps on est là pour penser au CNRS, alors je reformule, sa vocation principale est de prendre de la hauteur sur l'ensemble du programme et de le penser à travers un prisme bien particulier qui est celui de la crise et de son parèdre, la résilience. Penser une idée forte, celle que les biens culturels sont quasi aussi nécessaires à la vie et au maintien des formes de vie que l'alimentation ou les soins médicaux, qu'ils sont des outils essentiels du renforcement des droits culturels. Alors je rappelle ici, Fabrice, que Eupraxie emprunte donc son nom à la mythologie, qui est donc, tu l'as dit tout à l'heure, la personnification du bien-être, de la bonne réputation et de la bonne conduite. Pour les industries culturelles et créatives, il me semble que le Covid-19 a révélé, et assez douloureusement d'ailleurs, des phénomènes qui étaient déjà en germe depuis un certain temps. Il a fait prendre conscience aux industries culturelles et créatives de l'impérieuse nécessité de sortir de leur zone de confort, si on puisse considérer qu'ils s'y trouvaient, mais de sortir de ce qu'ils connaissaient pour innover, pour résister et pour s'adapter dans un monde en très forte mutation et que c'était une condition sine qua non pour survivre. Par ailleurs, dans un contexte de crise écologique prégnant, dans un contexte économique incertain, dans un contexte international qui ne l'est pas moins, que ce soit en raison des différents conflits que du vacillement de la démocratie, le développement des industries culturelles et créatives peut aussi être questionné comme relevant de processus essentiels pour le développement démocratique des sociétés. Qu'il s'agisse de la lutte contre les injustices et les discriminations, et là on rejoint beaucoup le projet Témis sur comment toucher les publics, on rejoint aussi beaucoup le projet Dédale sur comment désenclaver les territoires, donc injustice et discrimination, qu'il s'agisse également de la dialectique entre culture populaire et culture haute, qui est un des sujets que je partage, je pense, avec Sandra. Donc vous l'aurez compris, Eupraxie est bien plus qu'un simple projet de recherche classique, c'est une quête ambitieuse qui sera menée conjointement avec les communautés de recherche et les communautés professionnelles, et je l'espère aussi avec le politique pour que tout ça arrive à percer. Personne d'autre mieux que toi, Sandra, n'aurait pu s'emparer d'un tel sujet. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vent à ce projet essentiel, pavé de défis, mais aussi de possibilités immenses. Merci beaucoup.
Merci Solveig, merci à vous tous hein, pour vos interventions. Je vais juste ajouter quelques mots pour qu'on puisse commencer vraiment. C'est amusant parce que souvent dans ce genre de colloque, les discours des officiels, c'est vraiment la punition. Et là, c'était vraiment au contraire à chaque fois une très très grande richesse et contribution à ce sujet. Et puis l'expression d'un soutien qui est absolument formidable. Donc pour moi, c'est extrêmement encourageant. Je remercie bien sûr tous ceux, celles qui sont là aujourd'hui, et en particulier tous les intervenants, intervenantes des tables rondes qu'on va avoir aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être dans ce lieu, hein, qui en effet, c'est vrai que Solveig était pas ravi que je choisisse un lieu qui est quand même une tonalité universitaire, on ne se refait pas en plus dans le cinquième. En même temps, c'est un tiers-lieu, hein, c'est quand même très particulier, et c'est aussi vraiment quelque chose qui montre ce qu'on voudra faire dans ce projet. C'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur, hein, et je suis très reconnaissant à Solveig, à David, pour leur confiance, hein, et qui montre bien toutes les nouvelles perspectives, hein, qui sont ouvertes, hein, culturelles, créatives, industrielles, sociales, donc ouvertes par ICAR, et je mesure ma chance de pouvoir développer et concrétiser ces idées dont, ici, il y a beaucoup de gens qui me connaissent depuis longtemps, et vous savez à quel point ce projet réunit finalement toutes sortes de thèmes, d'actions qui me tiennent à cœur et que j'ai tenté de développer à diverses époques de ma vie, parfois en subissant divers colibés et ironies. Donc c'est vraiment satisfaisant pour moi de voir toutes ces idées soutenues, réalisées. Je suis très reconnaissante, bien sûr, au ministère, au CNRS, à CNRS SHS, notamment à Alexandre, avec qui, en effet, je partage depuis longtemps l'idée que la culture et la création prennent soin du monde, prennent soin de nous. Merci à Solveig qui a soutenu ce projet qui n'avait rien d'évident et qui essaye tous les jours de m'éduquer un peu plus aux réalités aussi d'un projet de collaboration avec des industries, des pratiques, donc à sortir de ma zone de confort. Je suis très reconnaissante aussi aux autres porteurs de projets ciblés, en particulier, bien sûr, ceux qui sont là, hein, ceux qui sont pas là, je suis moins reconnaissante, mais je les aime quand même. Donc, Luc Robin, parce que on a vécu un très beau moment avec le lancement de Dédale, donc, Ulysse et Volny. Je suis très reconnaissante aussi, à tout le personnel d'ICAR, donc, Hyacinthe, plus toute l'équipe qui a été envoyé à mon secours aujourd'hui, je dois dire. Donc voto pour l'image, Dominique pour le son. Enfin, c'est vraiment grâce à eux que voilà le spectacle va être un peu présentable. Et je remercie bien sûr aussi tout le personnel d'IAJPS qui n'est pas là, mais vous avez été en contact avec elle. Coralie Mavridoglou, donc Sophie Guy, plus l'équipe rapprochée habituelle, Sylvie, Tatiana, Camille, Thibault, Arthur, qui sont là, et bien sûr tous les copilotes, membres du copil de Praxi, dont beaucoup ont été sollicités et vont intervenir aujourd'hui. Par exemple, Marie-Christine Lemardelet, Mathieu Paul Bonneville, Pascal Tumrel, Florence Janicatrice, Samy Zignani, Eric Maigret, il y en a d'autres. Hein, ils sont très, très impliqués dans cette journée, dans l'organisation, la conception de ce programme. Et enfin, bien sûr, je suis très reconnaissante à mon université qui accueille ce projet après avoir hébergé le projet européen donc Demoserie, qui porte le projet Demos aussi en cours, hein, donc il y a vraiment une convergence, et c'est en effet d'abord une réflexion sur la démocratie et la démocratie culturelle, hein, effectivement, la contestation de ce que j'appelle le séparatisme, hein, de la haute culture et de la culture populaire, hein, qui me préoccupe depuis longtemps. Et donc cette démocratie culturelle, c'est effectivement ce qui m'amène ici, hein, et en effet le mot praxi, je l'aime bien puisque c'est bonne pratique, c'est vraiment aussi la démocratie comme pratique, hein, donc bien sûr telle qu'elle est conçue en particulier par John Dewey, pardon pour les références, mais c'est quand même ce qui nous porte aussi, hein, donc la démocratie définie non pas comme un ensemble d'institutions ou un régime, hein, qui peut parfois paraître à bout de souffle, mais plutôt comme ancré dans les capacités, l'autonomie, la subjectivité, l'affirmation des goûts individuels des citoyens, et donc des capacités que les industries culturelles renforcent et entraînent, puisqu'elles sont en effet accessibles au plus grand nombre. On n'a pas besoin de diplôme pour voir une série télévisée, par exemple, c'est mon sujet depuis longtemps, encore que certaines séries peut-être, mais en tout cas, normalement, non, que la pensée américaine, Dewey, mais aussi Stanley Cavell, hein, qui m'a toujours guidée dans cette réflexion, c'est vraiment le refus d'une culture élitiste qui est un outil de distinction sociale, et aussi l'idée d'un pouvoir transformateur, d'un pouvoir moral, politique, de cette culture, hein, qui serait donc source de nouvelles valeurs démocratiques et, on l'a dit, de résilience collective, en donnant à chacune le pouvoir de décider de ce qui compte pour elle ou lui. Et donc, c'est vraiment cette définition de la démocratie, mais aussi de la résilience, parce que on sait tous que c'est un concept qui peut parfois être problématique, hein, qu'on peut ne pas apprécier, mais dans cette réflexion, j'ai vraiment, pris connaissance de cette capacité du concept de résilience et de résilience collective de la société qui est apportée en fait par ces industries culturelles. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait fondamental, et bien sûr, c'est quelque chose qui a pour moi partie liée avec le care et le bien-être, hein, puisque Praxi, c'est aussi les bonnes pratiques et c'est le bien-être. Donc c'est magnifique, puisque c'est Dewey et c'est le care aussi, un thème que j'ai vraiment, bon, tout un groupe aussi de chercheurs essaient de défendre, et de praticiens aussi, hein, donc travailler sur le care, c'est forcément travailler sur ces pratiques, et c'est un thème qui a pas toujours été facile à défendre, hein. Ça paraît loin maintenant, mais si vous vous rappelez vers 2010, quand un parti pourtant de gauche a essayé d'importer, d'utiliser ce terme, il y a une espèce de levée de bouclier, toutes sortes de moqueries en fait sur un Caire qui serait cucu, etc. Enfin, excusez l'expression, mais c'est vrai qu'il y a eu finalement des réticences à la notion de Caire qui sont venues de toutes sortes de directions jusqu'au moment où effectivement le Covid est arrivé, on l'a rappelé, le Covid a permis qu'on parle enfin de Caire dans l'espace public et que ça devienne en fait un concept reconnu et fondamental, certainement parce que le Covid a révélé une vulnérabilité commune que le partage des objets culturels, des produits, a permis de surmonter, en tout cas de tenter de surmonter. Et puis, jusqu'au moment plus récent, heureusement, on en a parlé tout à l'heure, hein, merci Fabrice, merci d'avoir rappelé ça, ce moment qui est déjà un peu disparu, mais des Jeux Olympiques Paralympiques où la culture populaire a été une source extraordinaire de bien-être, de solidarité et de moments et de valeurs partagées sur lesquelles on peut s'appuyer pour continuer à vivre. C'est aussi le moment où la culture populaire a très clairement intégré en fait le sport, qui était vraiment quelque chose à part, et je crois que ça a été aussi un événement considérable, même si ça ne fait pas partie des filières du PEPR. Je pense que là, il y a eu vraiment un événement particulier avec des figures sportives qui maintenant font partie en fait de la culture populaire et leur discours aussi. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui a été très bien dit aussi. Ma grande référence morale et philosophique, comme toi, c'est Thomas Joly, hein, qui dit quand même des choses très intéressantes, puisqu'il va dire cette rencontre entre ces deux types d'art, l'art académique, plus institutionnel, et l'art pop urbain moderne, non seulement crée de la beauté, mais aussi de la bienveillance et du care, en prenant soin, en fait, de la société. Et c'est ce que la culture populaire, en tant que sport aussi, fait. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. De même, le rapport à la santé me paraît tout à fait évident. Et c'est vraiment le bien-être, quand même, qui est en cause aussi, hein, dans ce projet. C'est aussi pour cela que, bien sûr, on a vraiment un très grand travail d'Anthémis sur la réception et la réception de ces produits et de la culture et des industries culturelles, c'est extrêmement important. Mais il me semble que cette question de la culture comme produit de première nécessité, hein, et comme qu'on l'a vu pendant le Covid, mais aussi tout récemment, hein, et donc cette capacité à contribuer au maintien des formes de vie solidaires et créatives, c'est vraiment sa première qualité démocratique, et c'est extrêmement important, puisque justement les pouvoirs institutionnels sont souvent peut-être condescendants vers des produits qui sont pas marqués du sceau du grand art et qui sont liés au développement technologique, numérique et au développement de la société en tant que telle. Donc je défends cette idée de la résilience des sociétés, hein, une résilience collective, hein, pas individuel, hein, et une résilience par les industries culturelles et créatives. Mais je crois que c'est vraiment important aussi de parler de la résilience des ICT elles-mêmes contre les discours parfois dévalorisateurs qui se multiplient, par exemple contre la prétendue aliénation, hein, qu'elles suscitent ou accompagnent, hein, qui est aussi un sujet qui m'intéresse. Et je crois qu'il est très important de développer, oui, scientifiquement, hein, du coup, leur capacité à être source de bien-être comme de créativité esthétique. Et c'est aussi des recherches très concrètes que nous voulons engager sur des indicateurs de qualité de vie, hein, puisqu'on parle beaucoup depuis des décennies de qualité de vie. Mais la qualité de vie, bon, ça a été vraiment un sujet sur lequel on a intégré de plus en plus de nouveaux critères, hein, qui n'étaient pas au départ. Mais l'idée d'avoir vraiment une transformation de la définition et des indicateurs de qualité de vie en y intégrant justement l'accès et l'usage des industries culturelles, la revendication, avec l'a dit, des droits culturels comme droit premier, et tout simplement aussi le pouvoir politique des industries culturelles qui, il me semble, est tout à fait nécessaire aujourd'hui. Donc voilà, juste quelques mots de complément par rapport à ce que nous avons déjà entendu. Merci beaucoup. Je voulais vous donner maintenant quelques indications logistiques. D'abord, pour vous indiquer, donc vous avez tous le programme des tables rondes. On va avoir donc une première table ronde maintenant sur les ICC et ressources pour la création. On va ensuite avoir le cocktail qui ne se trouve pas dans cette salle, mais qui se trouvera dans une salle à côté. Donc il faudra que vous nous suiviez docilement jusqu'à une autre salle, donc à 13h. Je voulais aussi vous signaler que donc nous avons Vince, si vous voulez savoir ce qui se passe au fond de la salle, qui est graffeur et qui va justement nous accompagner aujourd'hui, une partie de la journée peut-être. Vince, vous pouvez venir nous dire un ou deux mots sur votre travail. Et ensuite, on commencera les tables rondes. Et là, je suis très reconnaissante, bien sûr, à Sylvain Bourmeau, qui est également un collègue de mon université, mais qui va animer. Voilà, maintenant, on entendra plus que on va avoir Sylvain pour animer l'ensemble des discussions.
Merci. Donc, juste moi, je ne souhaite pas être pris en photo ni filmé. Déjà, je suis très heureux d'être ici. Donc moi, j'ai commencé par la culture populaire, le graffiti, et puis petit à petit, j'ai évolué vers le muralisme, en fait, suite à des voyages. Et j'aime pas trop le mot de street art et tout ça, etc. Et c'est vrai que cette expérience, elle me confronte chaque jour aux politiques culturelles de proximité. J'habite en Grande Couronne et j'agis en Grande Couronne. Et j'ai découvert la domination culturelle, la violence culturelle, le colonialisme culturel. Enfin, je me suis rendu compte petit à petit de l'importance de la culture, quoi, en fait, que la culture était finalement centrale, dans le sens où la pensée précède les actes, et donc la culture précède les actes. Et nous, c'est un moyen d'action. Tu parlais de care et tout ça, de bienveillance. Voilà, chaque jour, on travaille là-dessus, et c'est vrai que, par exemple, quand je dis que la culture précède les actes, nous, on est confrontés à des problématiques de rixes interquartiers avec des décès régulièrement. Il y a un petit jeune, c'était le 13, le 14 septembre, ça faisait un an qu'il était mort, là, sur Corbeil-Essonne. Et je pense que c'est un problème qui a une solution culturelle, quoi. C'est-à-dire que c'est la représentation que les gens ont d'eux-mêmes qui est culturelle, et qui fait en sorte que qu'il y a des gens qui meurent. Je parlais de domination culturelle, de violence culturelle. Moi, j'appartiens un peu à la culture hip-hop. Nous, on a nos pionniers, la première génération, ceux qui sont nés vers 72, 73. Ils ont aujourd'hui 50 ans. C'est des gens qui ont ouvert des portes, qui ont même brisé des fenêtres. Et puis, il y en a pas mal qui sont au RSA, qui sont dans les addictions. C'est super dur. Or que pour moi, c'est des héros, quoi, en fait. Et donc, du coup, je me dis, je ressens un vrai décalage des fois avec, entre guillemets, le monde culturel. Et nous, c'est vrai que pendant longtemps, on était, nous, avec les MJC, les centres sociaux, les services jeunesse. Et quand on est arrivé à dialoguer avec les services culture, ça a été un choc culturel, quoi. Et tu parlais de crise. Donc, on a la crise écologique, on a la crise... je fais une petite dédicace à Ulysse qui cite souvent, qui part souvent de paroles de rap... pour introduire ses pensées. Il y a un rappeur qui s'appelle Rov qui parle de crise sociale, crise identitaire. On l'a vu là avec les résultats des élections en juin, la crise culturelle, quoi, finalement. Et c'est vrai que le fait d'intervenir dans les quartiers populaires, j'ai l'impression, nous, qu'on est à l'avant-garde de la France, de la culture française, parce que ce que certains appellent créolisation, ce que d'autres appellent interculturalité, on la vit, on la pratique, on invente, on crée, on soigne, on réinvente la culture française, en fait, quoi. Et moi, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, la culture française du 19e, je l'adore. Franchement, tout ce qu'on a pu apprendre à l'école et tout ça, etc., c'est extraordinaire, mais on reviendra jamais au 19e siècle, quoi. C'est ça le problème. Là, on est dans le 21e et c'est un enjeu pour moi central qu'on se redéfinisse culturellement. Et donc, moi, pourquoi je parle de muralisme ? Bah, parce que moi, j'essaye de peindre un peu la société, les choses, la réalité que je vis. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, donc moi, je peins dans l'espace public, en plus. Donc, c'est un endroit... mon public, il a de 7 à 77 ans, il est de toute classe sociale, et puis je suis pris entre le bailleur, qui est propriétaire du mur, l'élu, qui préfère le rouge au vert, ou qui veut pas qu'on parle de ci ou de ça, évidemment, les habitants. Et donc, moi, je passe ma vie à essayer de créer du consensus, à donner de l'amour, à donner du respect culturel à tout le monde, en essayant de faire un maximum de concertation. Mais voilà, il y a des endroits où on voit que ça achoppe. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mamans voilées dans les centres sociaux. Je peux pas les peindre sur les murs, quoi. Enfin, c'est rarissime, quoi. C'est immédiatement, on sent que ça bloque, quoi. Et donc, quand je parle de nécessaire redéfinition culturelle, voilà, quoi, on y est. Et on a besoin d'être offensif là-dessus. C'est-à-dire que je pense que une grande partie de cette crise culturelle, les solutions, elles se pratiquent déjà au quotidien dans les quartiers populaires. La culture, c'est tout. La culture, c'est avec qui on peut marier sa fille ou son fils, comment on mange, comment on se dit bonjour. Toutes ces nouvelles politesses, ces nouveaux usages, bah, ils sont là, ils s'expérimentent, ils se créent, ils se réinventent en permanence. Et bah, y a pas mal de chercheurs qui vont y regarder. Et je pense que voilà, quoi, que c'est comment on popularise ça, comment on le fait découvrir au reste de la société, à ceux qui prennent les décisions pour nous, quoi, un petit peu, en fait. Voilà, bah, je vous remercie. En tout cas, moi, je suis très content d'être là. Tout ce que j'ai entendu, bah, ça me parle énormément. J'ai l'impression d'être une sorte de chercheur aussi, mais bon, sauf que j'écris rarement. Moi, d'habitude, je dessine, je fais du figuratif. Voilà, du coup, vous voyez, ça m'a emmené dans que de l'écriture, quoi. Voilà, du tag.
Merci Vince, hein, très intéressant. Merci de pas avoir écrit, tagué directement sur les murs, du coup. Maintenant, je vais donner Sylvain pour la première table ronde.